Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
La tourista, bienvenue, on est content de vous voir, je suis content de voir tous et chacun assemblé à matin. Vous pouvez tourner dans Colossiens au chapitre 1, Colossiens chapitre 1, et le passage qu'on va étudier aujourd'hui, c'est Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. On est dans une série sur la sécurité éternelle. Puis avant de parler de versets positifs qui nous assurent noir sur blanc qu'on a reçu la vie éternelle, que c'est réglé, qu'on ne peut plus perdre ce qui nous a été acquis, il y a une vingtaine de versets qui nous en font douter. Ils nous font douter qu'on n'est peut-être pas tout à fait marié en tant qu'Église à Christ, qu'à moins qu'on ait vraiment persévéré, là on va pouvoir être reconnu comme épouse ou en tant qu'Église ou encore sauvé en tant que croyant. La semaine passée, on a regardé 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2, qui nous disait « si nous ne nous éloignons pas tu ». Sais. Puis le verset d'aujourd'hui, il nous fait mettre un petit doute. Et donc, dans la première partie de mon message, c'est qu'est-ce que le verset paraît dire. Puis ensuite, plus qu'on avance dans le message, on regarde qu'est-ce que le verset dit vraiment. On va aller aux acétates. Et si la barrette ne fonctionne pas, c'est pour ça que je l'avais envoyé aussi sur Facebook. Yes! Merci! OK, donc le titre du message, c'est « La guerre est terminée ». La guerre est terminée. On va regarder le verset ensemble. Le verset, donc, c'est Colossiens 1, versets 20 à 23. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. » Dans ce verset-là, il semble qu'il y a un « si » ici. Christ va nous faire paraître devant lui, saint, sans reproche, irrépréhensible, si, prochain clic, si on ne se détourne pas. On va pouvoir, on a l'espérance de comparaître devant lui, saint, sans reproche, irréprochable, si on ne se détourne pas. Ça, c'est ce que le verset paraît vouloir dire. Et on a ces passages-là, quand on les lit, on arrête à si, puis on fait « on voit le si, là. Et ça peut nous faire douter. Là, on va regarder ensemble qu'est-ce que le passage nous dit. D'abord, il nous dit ce que nous étions et qu'est-ce qui a été fait pour nous. Hein? « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Avant, on était étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Étranger. Le mot étranger veut dire, c'est le mot apalotrio. Et c'est intéressant quand on regarde ça. Pourquoi est-ce qu'on était étranger? Bien, le mot étranger ici veut dire être étranger au loin. Tu sais, quand on dit, c'est un étranger. Tu sais, c'est une personne qui vient souvent de l'autre bord de l'océan. On va dire, c'est un étranger. Ou du sud, de très au sud. On va dire, c'est un étranger. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas de la place. C'est pas un un pur laine, mettons. C'est un étranger, on pourrait dire ça. Okay? Mais c'est aussi, quand c'est utilisé au figuré, c'est un non-participant. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté ou quelqu'un qui ne participe pas, qui n'est pas participant. Ça veut aussi vouloir dire être aliéné de la communion et de l'intimité. Donc, privé de quelque chose, privé de... Donc, étranger à, dans le sens de privé de quelque chose. Hein? Et donc, on était privé des alliances, de l'amour de Dieu et de Dieu. Avant qu'il se passe quelque chose dans notre vie, on était séparé du peuple de Dieu. On était séparé de Dieu puis de son amour. Et pourquoi est-ce que c'était ça? Bien, c'est parce qu'on était ennemis. Et le passage, là, il développe. Il dit, vous étiez autrefois étrangers, donc séparés du peuple de Dieu, séparés de l'amour de Dieu, séparés des promesses de Dieu. Okay? À cause de quoi? À cause que vous étiez ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Le mot « ennemi » ici, quand il est utilisé pour comme un nom, il parle des ennemis de la foi. Particulièrement de Satan, l'ennemi des croyants. Jésus va donner une parabole, puis il va dire il y a quelqu'un qui est sorti pour semer, puis dans la nuit, l'ennemi vint et sema de l'ivraie dans le champ et tout ça. Puis Jésus va dire l'ennemi, c'est le diable. Aimez vos ennemis, quand Jésus dit aimez vos ennemis, lorsqu'ils ont un nom, c'est les ennemis du croyant, c'est les ennemis de ceux qui sont hostiles envers la foi des croyants, ou une personne qui est hostile à la foi en Dieu. Ça décrit l'hostilité, ça parle d'être sous la faveur. Okay? Et donc, le péché a causé en nous un éloignement, donc le péché a causé un éloignement de Dieu et un endurcissement dans notre cœur. Et il dit, vous étiez ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Eh bien, c'est avec nos pensées qu'on est appelé à aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de tout notre être. C'est avec notre pensée. Et ne pas l'avoir fait nous a rendus coupables. De ne pas aimer Dieu de toute notre pensée nous a rendus coupables. Nos mauvaises œuvres, c'est, on pourrait lire, nos actions infectées. Le péché ayant venu infecter même les actions que nous avons faites, on est devenu ennemi de Dieu à cause des actions infectées, les actions qui ont été infectées par le péché en nous. Et le plus grand péché, je pense, de l'homme, c'est proclamer son indépendance face à Dieu. Ah, je pourrais, il y a une manière, je pourrais faire sans passer par Dieu. Hein, c'est un peu ça que Ève lui a été proposé, d'aimer, de connaître sans passer par Dieu. Et le péché de l'homme, c'est de proclamer son indépendance avec Dieu, puis de dire, ben, moi, je ne veux pas que Dieu règne sur moi. Je ne veux pas que Dieu règne sur moi. Et on est devenu, c'est pour ça que la Bible va appeler ça l'inimitié. Il y a quelque chose qui s'est installé dans notre cœur qui nous a éloigné de Dieu, c'est qu'on s'est préféré à Dieu. Un peu comme dans un mariage qui, au début, je veux dire, avant le mariage, monsieur, madame et jeune homme, jeune fille, ça ne peut pas passer une heure sans se voir, sans se parler, sans se dire que je pense à toi. Puis là, après, il y a une alliance qui est faite. Puis là, à un moment donné, on commence à aimer mieux avec notre chum de fille, avec notre chum de gars, puis l'ordinateur, les jeux. Il y a d'autres choses qui viennent prendre la place de quelque chose qui était avant, qu'on voulait tout tasser pour avoir ça. Puis, le péché est venu s'installer et on est devenu ennemi de Dieu où l'inimitié s'est installée dans notre cœur, qui est le contraire à l'amitié, c'est qu'on a commencé à se préférer par rapport à Dieu. On a commencé à se préférer par rapport à lui. Et ça, c'est devenu l'ennemi de « j'aime Dieu, puis je veux lui donner ma vie, puis je veux le servir, je veux le connaître ». C'est l'inimitié. Et il y a trois versets dans le Nouveau Testament qui parlent d'être... l'ennemi étranger de Dieu ou des alliances. Et un qui résume bien, c'est dans Éphésiens au chapitre 2, verset 12. « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Le même auteur, deux livres différents, mais sa pensée, c'est « Avant, vous étiez étrangers aux alliances qui avaient été faites, qui appartenaient au peuple juif, les alliances de vivre longtemps sur la terre, paradis terrestre, etc. Sans espérance et sans Dieu. » Donc, privé ou étranger à l'espérance, étranger de Dieu dans le monde. Donc, dans ce passage-là, puis le passage d'Éphésiens 2, il continue en expliquant pourquoi il était étranger. C'est intéressant, regardez bien. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Paul va dire c'est l'inimitié qui a été détruite. Il y avait un mur en Israël, il y avait un mur au temple où ce qu'on appelait ça, c'était le mur de séparation entre les gentils qui étaient non-juifs puis les juifs. Puis il y avait des pancartes sur le mur, puis c'était écrit « Passez à vos risques de vie ou de mort ». Si tu étais un non-juif et tu traversais ce mur-là, tu pouvais être tué. Littéralement. Il y avait un mur là qui était là, puis qui disait, regarde, les non-juifs ne rentrent pas ici, c'est consacré, c'est saint, et c'est les juifs qui sont de ce côté-ci. Et Paul va dire, il est venu briser le mur de séparation. Hein, nous étions étrangers aux alliances, la promesse, sans Dieu dans le monde. Il est venu briser le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux. Les deux, c'est qui ça? Bien, c'est nous puis Dieu. Entre les deux, c'est nous et Dieu. Et c'est le non-juif puis le juif, les divisions qui existaient. Il est venu briser le mur en établissant et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Donc, l'un et l'autre, le non-juif et le juif. Il est venu enlever le mur d'inimitié qui était entre les deux. Puis, nous et Dieu, par la croix de Christ, il nous a réconciliés les uns avec les autres. Et regardez, il dit, en détruisant par elle l'inimitié. Ça, c'est la base de l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ. Le mot réconciliation, on va le voir ensemble, mais le mot réconciliation veut dire enlever. Bien, je pense que je l'ai sur la prochaine étape, à cette étape. Enlever l'objet de l'inimitié. Donc, vous qui étiez étrangers parce que vous étiez des ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, vous avez maintenant été réconciliés par sa mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui causait le fait qu'on était ennemis de Dieu a été enlevé. L'objet de notre inimitié a été enlevé. Très important de comprendre ça. Donc là, on est dans, c'est pas ce que le passage paraît dire, mais dans ce que le passage veut dire. Et il nous parle au passé de quelque chose de merveilleux qui s'est passé, c'est qu'il y avait une séparation entre moi et Dieu à cause de mes mauvaises pensées, à cause des omissions d'avoir aimé Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma pensée. Des mauvaises pensées que j'ai eues, ainsi que des actions infectées par le péché, me rendaient ennemi d'avec lui. Il a pris ces choses-là qui me rendaient ennemi d'avec lui, il les a pris, il a enlevé ce qui causait l'inimitié, il m'a réconcilié avec lui. Il a enlevé le mur qui me séparait, qui était l'inimitié entre moi et lui. Donc, ça nous amène en jugement. Et le jugement, c'est que mon péché a été jugé dans la personne de Jésus-Christ et Dieu l'a ôté. Donc, le jugement a eu lieu en ce qui me concerne. Et juste, regardez le temps auquel la réconciliation s'est accordée. Regardez à l'écran. Quand est-ce que c'est fait? Il vous a quoi? À quel temps? Maintenant, réconcilié. Maintenant, si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, si tu as reconnu ce qu'il a fait en mourant sur la croix, en prenant ce qui te séparait d'avec lui, maintenant, pas un jour, mais maintenant, tu es réconcilié avec Dieu concernant le jugement. OK? Jean 5, 24 dit, « Si quelqu'un croit en Jésus et en celui qui l'a envoyé, il est passé de la mort à la vie, il ne viendra point en jugement. » OK? Donc, c'est maintenant. Et juste ce mot-là, on pourrait arrêter l'étude ici, retourner chez nous puis dire, « C'est réglé concernant ma vie éternelle. » Pourquoi? parce que la réconciliation a eu lieu au passé et je suis maintenant réconcilié. Je vis dans les effets de ce qui est arrivé dans le passé. C'est une possession présente que d'avoir la vie éternelle et pas quelque chose de futur. Okay? Et une des propositions que les croyants à la doctrine de la persévérance des saints croient, on trouve ça sur le site de John Piper, nous devons persévérer dans la foi pour être finalement sauvés. Le mot « finalement » est important parce que dans la doctrine calviniste, la fausse doctrine calviniste de la persévérance des saints, il faut que tu prouves que tu persévères jusqu'à la fin pour un jour peut-être être finalement faire partie de ceux qui sont sauvés. Okay? Donc, cette persévérance-là. Et ma série, c'est aussi pour exposer cette doctrine-là qui fait beaucoup de tort à des croyants parce que beaucoup de croyants ne peuvent pas se coucher le soir avec la certitude que s'ils meurent, ils sont sauvés. Parce qu'ils ne savent pas s'ils ont persévéré. Parce qu'il y a le verset qui continue en « si du moins nous persévérons, si du moins on ne se détourne pas de l'Évangile ». Il y a ces versets-là qui nous font douter si on ne les étudie pas. Et c'est pourquoi je ne vais pas juste m'arrêter au temps présent de ce verset-là qui dit « nous a maintenant réconciliés avec lui ». Okay? Mais la guerre est terminée. Donc, il nous a maintenant réconciliés. On était des ennemis. On était dignes d'être appelés en jugement devant le juge de l'univers. Mais on ne passera pas en jugement devant le juge de l'univers. Et Dieu nous a, il a fait cesser notre guerre envers lui en mourant sur la croix pour nous. Okay? Donc, Jean 5, 24, il est passé de la mort à la vie. Il ne viendra jamais en jugement. Mais le reste du passage est un petit peu difficile. Et il nous fait douter parce qu'il dit... Il va nous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Vous qui avez entendu, qui a été prêché à toute la créature du ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Oh, là, on est dans un si ici, si du moins. Donc, on est en présence d'une contradiction. Quand on est en présence d'une contradiction, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Établir une distinction. Merci, Patrick. Donc, on va essayer d'établir ça. Et pour faire la distinction, il faut essayer de comprendre son ministère. Quand Jésus était sur la terre, il faisait un ministère de prophète. Lorsqu'il était à la croix, il faisait un ministère de... il ne faisait pas grand-chose. Hein? Il était le sacrificateur sacrifié. Hein? Il est le sacrificateur présentement dans les cieux qui présente un sang pur pour nous coupables. Okay? Et il va revenir puis il va faire quoi? Il va venir faire quoi? Juger. Donc, il était sur la terre comme un prophète. Il est mort sur la croix comme un sacrificateur sacrifié. Il fait office de sacrificateur dans les cieux présentement. Il intercède pour des coupables présentement. Puis un jour, il va venir juger le monde. Okay, donc, comprendre son rôle nous aide beaucoup ici à comprendre ce verset-là. Premièrement, sur la croix, il est le sacrificateur sacrifié. Et je veux que vous remarquiez dans le passage le par et le pour. C'est bien important ici. Okay, le par et le pour. Premièrement, par. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Excuse-moi. Ce n'est pas ces par-là que je veux que vous voyez. C'est le par qui suit. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Le par, ça parle du moyen du salut. Le pour, c'est pour le but du salut. Bien important. Il faut vraiment séparer ces choses-là. OK? Par. OK? Et pour. Par, c'est la manière que Dieu nous a réconciliés. C'est quoi le moyen? Sa mort sur la croix. Pour, c'est le résultat de ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est pourquoi? C'est pour ôter nos inimitiés. C'est pour nous présenter à Dieu dans sa justice à lui. Parce que lui, il enlève l'objet de l'inimitié, mais en inverse, il nous donne à une vie sainte. Il nous donne sa justice. Il fait un échange avec nous. Et c'est là que le reste du passage continue. Le pour, c'est quoi le résultat de son œuvre sur la croix? Le livre des Hébreux, il parle des sacrifices animaux qui avaient pour... c'est un innocent qui mourrait pour un coupable. Ça servait un certain temps pour couvrir les fautes. Ça ne les enlevait pas, mais ça rendait la personne consacrée à nouveau. Elle se consacrait à nouveau parce que son péché qui la déconsacrait, si on peut dire, mais le sacrifice animal venait la consacrer à nouveau. Et donc, Hébreux, lorsque l'auteur écrit, il parle des sacrifices d'animaux, puis il va comparer ça au sang de Jésus-Christ par rapport au sang des animaux. Puis il va dire, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, va purifier votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? Puisque Christ, son sang est pur, on va devenir pur. Hein? À combien plus forte raison son sang, qui est pur ou sans tache, purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Un, puisque lui, il est pur, nous devenons purs. C'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Notre inimitié qui ne voulait rien savoir de Dieu, on était étrangers, puis on ne voulait même pas les choses de Dieu, on ne les désirait pas ces choses-là même, parce qu'on était ennemis de Dieu. Okay? Il nous purifie de ça pour qu'on puisse servir le Dieu vivant. Donc, parce que lui est pur, on va devenir pur pour vous faire paraître devant lui saint. Le ministère du grand prêtre, c'était de présenter. Le mot paristémie, c'est présenter. Tous les versets, ça, le but, c'est pas de les prendre en note, mais tous les versets, lorsque la Bible dans l'Ancien Testament n'est pas en grec, hein, elle est en araméen et en hébreu. Par contre, la version de Septante, qui a été écrite quelques centaines d'années avant Jésus-Christ en grec, on a traduit les versets pour quand que le sacrificateur offrait un sacrifice à Dieu, un sacrifice animal, le mot, c'est toujours « présenter ». Ben là, Dieu vous présente à lui-même, mais il ne vous tue pas. Il vous présente à lui. Il vous présente à lui. Donc, ce qui arrivait, c'est que le sacrificateur prenait un animal, sacrifiait cet animal-là, puis vous étiez présenté à Dieu. En même temps que cet animal-là était présenté comme le sacrifice pour vous, vous vous étiez présenté à Dieu comme consacré à nouveau. Okay? Donc, le mot pour paraître devant lui ou présenter, c'est le mot technique qui était utilisé par un sacrificateur pour présenter un sacrifice. C'est tout ici que je veux que vous puissiez comprendre. Il offrait un animal pour que le peuple soit présenté à Dieu, consacré à nouveau. Okay? Et qu'est-ce qui se passait pour Dieu? L'objet qui avait causé l'inimitié de Dieu envers eux, ou ce qui causait la séparation entre l'homme et Dieu, était enlevé, et donc l'homme pouvait à nouveau être consacré à lui. OK, donc toutes les fois où ce que c'est utilisé, c'est le sacrificateur qui fait l'œuvre. Et ça, c'est important. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas nous qui nous consacrons. Le résultat de l'œuvre de Christ, ce n'est pas que nous nous consacrons, c'est qu'il nous consacre. OK, en passant, le mot « saint », ça ne veut pas dire nécessairement « pur ». Ça veut dire « consacré ». Ça veut dire ne pas avoir un usage commun. Ça veut dire « consacré à Dieu ». Et Jésus-Christ nous a rachetés puis nous a consacrés à lui. OK? Donc, c'est lui qui fait l'action dans le passage de nous consacrer à lui. OK. Là, si vous remarquerez, comme il faut, on n'est plus dans le père, mais dans le pauvre. On n'est plus dans le « qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» On est dans « qu'est-ce qui nous arrive puisqu'on a été sauvé ?» Puisqu'on était ennemi, puis là maintenant on n'est plus ennemi, on est quoi ? On est consacré. OK? On est dans le pour. Quand quelqu'un met le pour à la place du Père, ça vient gâcher tout. Donc, être sauvé parce qu'on se consacre, ça vient voler à l'œuvre de Jésus-Christ, la pleine transaction qui a eu lieu. Si c'est ce que Jésus-Christ a fait plus ma persévérance, je viens de voler à Jésus-Christ le Père. Parce que c'est par le Père qui est la croix que je suis réconcilié, pas par ce qu'il a fait plus que ce que j'ai fait. Et donc, la doctrine de la persévérance des saints confond le Père et le pour. Okay? Donc, pour vous faire paraître devant lui saint. Présentement, Jésus-Christ est dans sa transition de grand prêtre, c'est-à-dire mort sur la croix, intercédant pour les coupables dans les cieux, puis il va revenir comme juge. Donc, il est dans sa transition de grand prêtre à grand juge. Et le mot « paraître » peut aussi vouloir dire « comparaître ». Le mot ici est utilisé dans le Nouveau Testament à quelques endroits pour dire « comparaître ». Chacun d'entre nous, nous devrons comparaître devant le juge de l'univers, Jésus-Christ. Il n'y a pas une créature vivante qui ne va pas passer devant son Créateur. Mais Jean-Sébastien, tu n'as pas dit que c'était réglé. Tu n'as pas dit qu'on n'avait plus besoin d'aller en jugement. On va voir qu'est-ce que le sacrifice a réglé et qu'est-ce que le sacrifice n'a pas réglé. Premièrement, le sacrifice a réglé notre aliénation. L'aliénation, ça veut dire être privé de. Quand on dit les aliénés, on va dire ils ont été placés. Okay? Donc, une aliénation, notre séparation d'avec Dieu, on était loin de Dieu, mais Dieu nous a rapprochés de lui. Et ça, c'est le mot pour nous rapprocher de lui ici, c'est ça ici, saint. Il nous a rapprochés de lui, il nous a consacrés à lui. Donc, la croix est venue faire quoi? Elle est venue enlever l'inimitié qu'il y avait dans mon cœur parce que je disais, je ne veux pas d'un Dieu qui veut vivre, qui va régner sur moi. J'étais ennemi de Dieu par mes pensées et par mes mauvaises actions. La croix est venue prendre soin de ça et je suis devenu une personne consacrée. Ça ne veut pas dire que je me consacre. Quand quelqu'un est marié, ça veut-tu dire qu'il aime sa femme? Quand un homme est marié, femme, est-ce que ça veut dire que votre mari vous aime? Hein, quand on dit là, l'anneau, ce n'est pas garant de rien. L'alliance, le contrat non plus. Hein? Mais c'est la même affaire. C'est la même affaire avec Christ. On est sanctifié, c'est-à-dire qu'on y appartient. On est consacré, on est racheté à un grand prix et on lui appartient. Mais est-ce qu'on agit comme des gens qui lui appartiennent? Est-ce qu'on l'aime comme on devrait l'aimer? Non. Mais est-ce que ça change le fait qu'on est saint quand même, c'est-à-dire consacré à lui? Pas plus qu'un mari qui n'aime pas sa femme, mais qui est marié quand même avec elle. Je pourrais dire une femme qui n'aime pas son mari aussi. Hein? Eh bien, elle est quand même mariée, cette femme-là. Puis moi, si je n'aime pas mon Dieu, puis je ne l'aime pas de tout mon cœur, de tout mon être, si je pêche encore avec des mauvaises pensées et des mauvaises actions, je ne suis pas un saint à cause de ça? Est-ce que je ne suis pas à lui à cause de ça? Non. Intéressant. Notre aliénation, en tout cas, s'est réglée. On n'était pas des gens du peuple de Dieu. Maintenant, on est des gens du peuple de Dieu. On fait partie on est connecté avec Dieu. On est consacré à lui. Donc, c'est le mot saint, consacré. Notre condamnation au grand trône blanc est réglée. En passant, un des deux mots ici veut dire sans tâche. Sans tâche. Puis l'autre, ça veut dire sans. Tu peux être reprochable en justice, mais tu n'es pas reproché en justice. C'est quelqu'un qui mériterait d'aller en justice, mais qui ne va pas en justice. Donc, il peut être accusable en justice, mais il ne l'est pas accusé. Est-ce que vous êtes avec moi? OK? Donc, ici, notre condamnation au grand trône blanc, c'est qu'on est accusable. On demeure des gens qui ont fait des choses qu'on ne voulait pas faire, puis des choses de bien qu'on voulait faire, qu'on n'a pas faites. On demeure ces personnes-là, puis on continue encore de faire ces genres de choses-là. Par contre, même si on est accusable, on n'est pas accusé au grand trône blanc. Mais il y a un autre tribunal. Puis vous dites, Jean-Sébastien, tu n'as pas dit que le jugement s'était terminé? Non. Le grand trône blanc s'est terminé pour nous si on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul et on a reconnu ce qu'il a fait à la croix. Par contre, le tribunal des saints demeure encore. Il y a deux jugements. Il y a le jugement des incroyants. Dans Apocalypse 20, on le voit. Puis je vis un grand trône blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle le tribunal du le jugement, le trône. Voyons. Merci. Le jugement du grand trône blanc. OK? Puis je vis un grand trône blanc. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, il y a un jugement sur tout homme. Et sur tout homme dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Okay? Mais il y a demeure, pour celui qui a accepté Jésus-Christ, ce jugement-là est tombé sur la personne de Jésus-Christ à la croix. Mais pour le croyant, il dit, nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Et donc, le grand trône blanc s'est réglé. Jésus-Christ a pris le jugement du grand trône blanc, mais il n'a pas pris sur lui le tribunal des croyants, qu'on va appeler le béma, le mot grec ici, c'est béma. Il n'a pas pris sur lui les reproches, les réprimandes qu'il pourrait nous faire lorsqu'on va le voir. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris notre responsabilité. Il ne nous a pas enlevé notre responsabilité de continuer à l'aimer de tout notre cœur, de continuer à s'éloigner des œuvres mauvaises et de s'efforcer de lui être agréable. Et ça, on appelle ça la coercition de la loi ou la coercition de ce qui est demandé. En loi, la coercition, ça veut dire que si tu ne mets pas une conséquence, les gens ne le feront pas. Levez la main ici, ceux qui paieraient leur parcomètre s'ils savaient que le monsieur petit bonhomme vert ne passerait pas cette journée-là. Levez la main. Ah, Ben, ça, je suis dépassé. Tu es déjà glorifié, toi. Pour les autres pêcheurs que nous sommes, si je passais à ça, tu sais, j'ai pas une étiquette de 50, 60 piastres à Montréal quelquefois, parce que je me dis, je prends un risque, tu sais, ou bien non, je n'avais pas payé en temps, tout ça, mais s'il n'y avait pas, qui dans les citoyens paierait leur ticket, leur parcomètre s'ils savaient que le bonhomme vert ne passait jamais? À un endroit, il y a une place que la ligne de peinture, elle finissait, puis il y avait assez de place pour un char en avant. Et moi, c'est là que je me parquais. Je n'ai pas payé de parcomètre pendant un bout de temps, tu sais. Je n'ai pas brisé la loi, la pancarte, elle ne le disait pas non plus. Donc, je me posais la question, qui ici ferait ce qu'il doit faire parce qu'il est un bon citoyen, puis ah, je vais payer ma contribution, tu sais. À moins qu'il y ait une conséquence de ne pas le faire. Mais je pense que c'est la même affaire, puis là, il y a une récompense pour ceux qui vont avoir marché avec Dieu, puis il y a des pertes de récompense pour ceux qui n'auront pas marché avec lui. Puis je pense que tu enlèves ça, puis c'est l'incitatif de vivre une vie persévérante, tu l'enlèves aussi. Mais si tu sais qu'il y a un jour où Dieu va dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans des petites choses, je vais t'en confier des plus grandes. » Si tu as ça un petit peu dans ta tête, la doctrine de la persévérance, tu n'as pas besoin d'avoir une menace sur ta vie de dire, « Tu n'es peut-être pas sauvé, tu es peut-être sauvé. » Non, non, tu as juste besoin de savoir que le juge de l'univers va te faire rendre des comptes sur ce que tu as pensé, sur ce que tes intentions, sur ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, puis qui va te récompenser pour ta vie pieuse que tu vas avoir marché. On appelle ça la coercition. OK? Donc, ce qui est intéressant, il faut différencier les deux. Dans le premier jugement, qui est le grand trône blanc, l'éternité des gens est en jeu, puis leur degré de souffrance en fonction de leurs œuvres. Par contre, dans le deuxième, l'éternité n'est pas en jeu, mais la récompense de leurs œuvres l'est. Nos récompenses sont jugées. Dans celle-là ici, ce sont les récompenses, les œuvres qui sont évaluées dans le but de récompenser. Ici, ce sont les œuvres qui sont faites dans le but de punir celui qui s'est éloigné, celui qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu. Donc, ici, ce sont des gens qui sont punis Ici, ce sont des gens qui sont récompensés. Mais ici, ce qui est évalué, ce qui est passé par le feu, ce ne sont pas des gens, mais des choses, des actions qui sont faites. OK? Et donc, au grand trône blanc, les gens sont punis légalement, tandis qu'au tribunal de Christ, la punition légale a déjà eu lieu et a eu lieu sur la personne de Jésus-Christ. Donc, je ne serai pas puni, mais mes œuvres vont être évaluées dans le but de me récompenser. 1 Corinthiens chapitre 3, toutes les œuvres vont devoir passer par le feu et Dieu va nous récompenser. Donc, la souffrance de ce côté-ci, la honte d'être éloigné de lui, que Timothée va parler dans les prochains versets qu'on va regarder, c'est une honte d'avoir perdu la raison pourquoi je suis venu sur la terre, c'était aussi de me préparer pour mon éternité. Donc, mais il y a plein de gens qui vont être très heureux ici. Là. Des gens qui vont être très heureux de ce côté-ci. Et tout le monde va... ils vont dire, fouah, une chance que ça s'est passé. Une chance que je suis sauvé. Hein? Par contre, entre nous, on ne brillera pas tous de la même gloire. Prochain point et dernier, deuxième tiers, si on peut dire, de mon message. Troisième tiers. Notre consécration est rendue possible parce que Dieu nous présente à Dieu comme étant saint. C'est vrai qu'on n'a aucune responsabilité pour être réconcilié avec Dieu parce qu'on ne peut pas le faire, nous enlever cette inimitié qui est entre nous et lui. La seule manière d'enlever notre péché qui nous cause une guerre entre lui et nous, c'est lui qui le prend. On n'a aucune responsabilité là-dedans. On ne peut pas rien faire. Par contre, la croix nous rend responsables. La croix nous rend responsables parce que maintenant, on a été unis avec Dieu et on n'est plus des étrangers, on est des participants de Dieu. On est des participants de Dieu. Et parce qu'on a fait la paix avec Dieu, Dieu maintenant te regarde, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, puis il dit, à cette heure que tu as fait la paix avec Dieu, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, je t'ai consacré et maintenant je veux que tu te consacres à celui qui est mort et ressuscité pour toi. Donc, ça nous place dans un endroit de responsabilité. Il a enlevé notre culpabilité pour la croix, pour le jugement, mais il nous a placés dans un endroit de responsabilité. Et notre responsabilité, c'est quoi? C'est puisqu'on est consacré, il faut se consacrer. Puisqu'on était mis à part par Dieu, Dieu dit, OK, maintenant, mets-toi à part pour moi. OK? Et donc, on est placé dans cette redevabilité-là, de cette responsabilité-là. Regardez un beau verset qui nous parle de la réponse que Dieu attend de chacun de ceux qui ont fait la paix avec Dieu par la croix. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, dans Éphésiens 4, versets 17 et 18. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Le mot, on l'a étudié un peu plus tôt dans mon message. Ils sont étrangers, les gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais pas vous. Vous, il y a la vie de Dieu en vous. Ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux sont étrangers de Dieu et marchent selon la vanité, le vide de leur propre pensée, mais pas nous. Nous, on ne marche pas selon le vide de notre propre pensée parce qu'on est connecté à la vie de Dieu. Pourquoi ils sont étrangers à la vie de Dieu? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si Paul, dans Éphésiens, dit « Vous ne devez pas marcher comme des païens », c'est parce que les croyants peuvent le faire. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, croyants, que de marcher comme un non-croyant? Arrête d'écouter les messages. Arrête d'écouter les instructions. N'étudie pas la Bible. Cherche pas à obéir à ce qui est écrit dans la Bible. Et qu'est-ce que tu vas faire? Place ton travail, tes loisirs et tout avant l'obéissance pour Dieu. Et tu vas être juste pareil comme une personne qui marche selon la vanité de tes pensées. Pourquoi? Parce que le bocal est vide. T'es consacré, il n'y a pas de problème. Tu appartiens à Dieu, pas de problème. Mais Dieu dit, tu as la tête vide. Il faut remplir notre pensée de la parole de Dieu pour ne pas marcher comme les non-croyants qui marchent selon le vide de leur pensée. parce qu'eux autres sont étrangers à la vie de Dieu, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile, hein, ils ont une ignorance en eux. Bien, si on marche comme eux, on va aussi marcher dans l'ignorance qui est en nous. Puis on va s'endurcir le cœur tranquillement. Un peu comme dans un mariage, je vous disais, au début, tu faisais 100 km pour aller porter une rose à l'être aimé. Puis après ça, c'est elle qu'il faut qu'elle te cherche un verre de lait dans le frigidaire. Hein? Il y a quelque chose qui vient dans notre relation avec Dieu, comme dans un tout couple. Comme dans tout couple, puis en passant, vous êtes célibataire, ne pognez pas les blouses. Ceux qui sont célibataires, c'est comme le mariage, comme une forteresse. Ceux qui sont en dehors veulent rentrer, ceux qui sont dedans veulent sortir. C'est une joke. Sauf dans mon mariage, bien sûr. Mais je veux illustrer ça. Dans le Colossiens, le seul passage où c'est parlé de présenter à Dieu, c'est dans le même chapitre. Ah, on a vu la semaine passée que qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un mot, qu'on trouve un verset qui est difficile, on fait une péricope. Qu'est-ce que ça voulait dire? Regarder autour. Hein? Péri autour, comme périphérique. Péri, regarder autour. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 29 ou verset 28? Paul dit, nous nous efforçons, regardez ce qu'il dit, c'est lui que nous annonçons. Regardez comment, qu'est-ce qui est le mot exhortation, instruction, prédication. Regardez dans ce passage-là. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter le même mot que Christ qui veut nous présenter saint devant le Père. Hein? Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et Paul, il combattait, il était en prison, il écrivait aux Colossiens. Puis les Colossiens, il y avait une fausse doctrine qui était rentrée, que c'était plus par la croix qu'on était sauvés, c'était par nos œuvres. Hein? Et il y avait cette doctrine-là qui était en train de rentrer dans l'Église, puis c'est fini. Je veux dire, si cette doctrine-là rentre dans l'Église, c'est fini le salut en Jésus-Christ, à être mis à part pour Jésus-Christ, à être irréprochable au jour du jugement, c'est fini, ça n'existera plus ça. Fait que lui, il dit, je suis en prison, je combats pour vous. Il prie pour eux, il écrit une lettre, puis il dit, gars, j'exhorte, j'instruis. J'enseigne tout homme en toute sagesse afin de présenter tout homme devenu parfait. Là, c'est quand ça? Quand est-ce qu'il va présenter tout homme devenu parfait? C'est quand qu'on va comparaître devant Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir parfait? Ça veut-tu dire plus de péché? Non, être parfait veut dire complet, mature, qui ne manque de rien. Donc, Paul, il dit, gars, le but du ministère, c'est de présenter Geneviève, Frédéric, Solange, Sylvain, Louise, André, Colette, c'est de vous présenter. Puis Jésus dit, tu sais quoi, je n'ai rien à te reprocher. Tu es confessé à date, je sais que tu as péché la semaine passée, mais tu es confessé à date, tu t'es repenti, tu t'es relevé, puis tu veux m'obéir. Je n'ai rien à te reprocher. Non, je vais te donner tes récompenses. Tu es confessé à date. Wow! Et le mot, la seule place que c'est écrit dans Colossiens, c'est là, c'est au verset 28 et 29. C'est présenter tout homme ou toute femme devenue complète en Christ. Donc, ça a rapport à, on va tous arriver devant Jésus-Christ, puis on va être présenté. Dans quel état est-ce qu'on va arriver devant Jésus-Christ? Comme des gens qui aimaient Christ quand ils ont été sauvés, que là, c'est de l'eau arrachée au rocher de les faire lire leur Bible. Avant, ces gens-là, ils parlaient, c'est comme « manque pas ton rassemblement ». Après ça, c'est comme « tout passe avant un rassemblement ». Avant, ils étaient prêts à lâcher un futur pour faire de l'argent, puis ils voulaient juste consacrer, étudier la Bible, tu sais. Puis là, c'est comme hey, « tu sais, non, pas quand même exagéré ». Il est où ton cœur? Le cœur quand tu as connu Jésus-Christ. Paul exhorte, annonce, instruit, puis il veut présenter des gens que Dieu va dire, « J'ai rien à te reprocher. Bon et fidèle serviteur, tu n'as pas lâché. C'est pas que tu étais sans reproche tout le long. C'est que tu t'es mis en règle, tu as confessé, comme dans 1 Jean 1,9, ça dit, « Si fidèle est juste pour nous. » Nous purifier, nous pardonner toutes nos iniquités. Dans Éphésiens 5, 28, l'intention même du but du pourquoi Dieu nous sauve, c'est qu'il veut se faire un peuple qui l'aime, un peuple qui est racheté. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Wow! En reviendant dans le diaporama, Éphésiens 5, 28. OK, on va aller jusqu'à la fin. Éphésiens. OK, c'est ça ici. Bon. Tu peux le rendre noir, là. Dans Éphésiens 5, 25, Paul dit, « Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. » Mais le mot ici, quand il dit « l'avoir purifié par le baptême d'eau », dans l'original, ça dit « par le lavement de l'eau ». Donc, l'idée, c'est la parole. La parole. La Bible, elle est lue, la Bible, elle est étudiée, la Bible, on tente de la comprendre, puis si je suis dans le péché, puis qu'elle me dit que je suis dans le péché, on tente de l'obéir aussi. Hein? On voit des gens qui, de plus en plus, se font laver de leurs mauvaises actions et de leurs mauvaises pensées en mettant la Bible. Je disais, moi, j'étais béni. Il y a quelqu'un qui me disait, hey, je m'en vais en vacances. C'est quoi tu me suggères comme livre? Théologie, mon ami, vas-y, lis ça. Mets ça dans ta pipe puis fume. Mais c'était, wow, quelqu'un qui dit, hey, je prends mes vacances puis je vais étudier plus la Bible. Wow! Après l'avoir lavé par l'eau afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça. Ce à quoi Dieu travaille depuis qu'il nous a réconciliés avec lui. Depuis qu'il nous a réconciliés avec lui, ce qu'il cherche à avoir, c'est des gens, puisqu'ils sont consacrés, qui se consacrent. Comme un mari qui est marié, puisqu'il est marié, il aime, il se consacre. La même affaire. Et c'est ça à quoi Dieu travaille, c'est à préparer une épouse pour son fils. Une épouse qui va s'être lavée, qui va s'être maquillée, qui va s'être mise belle. Puis quand elle est présentée dans l'allée, l'époux, il avait juste hâte de la voir. Puis l'épouse, elle n'était pas là, elle avait d'autres choses à faire, mais comme c'est le mariage, je suis venu. Tu sais. Non, tu sais, ah, pourquoi tu es venu si tôt, Jésus? J'avais ça que je voulais faire sur la terre, il y a ça aussi que je voulais faire sur la terre, puis il y a ça que je voulais faire sur la terre. Je n'étais pas prêt à te voir, puis elle arrive avec toutes ses guenilles, tu sais, dans l'allée. C'est pas ça que Jésus veut rencontrer. Jésus veut rencontrer une épouse qui est « out ». Elle se prépare, elle ramasse ses petits colliers, puis elle pense à « OK, telle personne va être assise à telle table. » Il y a comme toute la préparation de la noce. T'sais. Puis Jésus veut qu'on attende son retour comme ça. Une épouse qui s'est préparée et qu'il est irrépréhensible. On va relire notre passage à la lumière de ça. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Ici, on avait vu que c'était sans tache, donc une belle robe blanche. Sans reproche, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va t'amener en cour de justice. Si du moins, ça veut dire que oui, il pourrait avoir des reproches. Oui, il pourrait avoir des réprimandes. Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, sans te détourner de ton Sauveur, sans le faire passer en deuxième, puis en troisième, puis en dixième dans ta vie, hein? Que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Pourquoi, dans l'Apocalypse, Dieu dit à une église qui s'éteint, tu as perdu ton premier amour, puis la chose qu'il lui dit, c'est, reviens à ton premier amour, pratique tes premières œuvres. Pourquoi pratique tes premières œuvres? Pourquoi? Parce que revenir à son premier amour en tant qu'Église consacrée, si elle ne se consacre plus, elle a perdu son premier amour. Elle demeure à Dieu. Dans l'Apocalypse, cette Église-là, elle demeure une Église qui appartient à Dieu, mais elle n'est pas consacrée. La fausse doctrine de la persévérance des saints voudrait nous faire croire que nous ne serons jamais consacrés à Dieu, nous ne serons jamais réconciliés avec Dieu. Si on n'a pas persévéré, si on ne s'est pas consacré à lui. Et c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Il s'est consacré pour nous, nous devons donc nous consacrer envers lui. Son amour, c'est lui qui nous a aimés en premier, mais il appelle chez nous un amour en retour. OK? Et donc, c'est tout l'inverse. Je vous ai parlé de l'exemple du mariage. deux individus sont consacrés à l'autre par le lien du mariage, mais ça ne crée pas nécessairement une relation où les deux individus se consacrent les uns aux autres. C'est proche de nous, on comprend ça. À un moment, le travail, les loisirs, peut-être même le bon moment que tu passes avec ta meilleure amie. Là, tu dis, crime, ma femme, là, quand elle voit Charlotte, là, je veux dire, elle commence pour déjeuner, puis elle revient après souper. On dirait qu'ils ne se tannent pas d'être ensemble. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas ça avec elle? Eh bien, ils l'ont planifié. Ils ont planifié ce moment-là, ils ont hâte à ce moment-là, puis ils veulent voir ce moment-là arriver. Quand j'ai un couple qui ne va pas bien, la première affaire que je leur demande, c'est « Est-ce que vous avez un rituel dans votre vie? » Je ne cherche pas s'il y a de l'amour. As-tu encore de l'amour pour lui? As-tu encore quelque chose que tu sens pour lui? Non. Est-ce que vous avez un rituel pour vous retrouver à chaque semaine, une soirée ou une journée, en dehors de toute responsabilité et de partage de tâches? Est-ce que vous avez ce moment-là? Et je ne commence pas vraiment le counseling avant d'avoir encouragé et vu dans ce couple-là qu'ils ont mis ce rituel-là en place. Que ce soit aller prendre une marche ou aller au restaurant, si on n'a pas d'argent, c'est de faire quelque chose qui est créatif, mais d'essayer de se voir l'un et l'autre. Eh bien, c'est la même affaire avec l'amour. On retrouve notre premier amour en pratiquant nos premières œuvres. Qu'est-ce qui faisait que tu étais en amour avec Jésus-Christ quand tu l'as connu? Y avait-tu quelque chose pour t'enlever un rassemblement? Donc, pratique tes premières œuvres. C'est pour ça que Jean, c'est Jésus-Christ qui parle à l'ange de l'Église, qui dit « Ton amour s'est refroidi. Tu as perdu ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. » Et en faisant, en se consacrant, la personne qui a été consacrée par Dieu, lorsqu'elle se consacre, elle trouve quelque chose là, puisque Dieu est consacré envers elle. Puisqu'elle est consacrée pour Dieu, parce que Jésus l'a consacrée, elle se consacre et elle se rend compte que si elle s'était éloignée, bien, sa nouvelle consécration répond à quelque chose qui était déjà là, c'est-à-dire que Dieu l'a unie à lui déjà. Et donc, la persévérance du croyant, elle a tout son sens parce que ce n'est pas toi qui fais quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose, mais c'est Dieu qui fait quelque chose pour que tu puisses faire quelque chose. Et lui, il t'a déjà sanctifié, pas sacrifié. Il t'a déjà sanctifié. Il t'a déjà dit que tu es dans une relation privilégiée avec le Créateur. Si tu réponds à cette relation privilégiée-là, sais-tu quoi, tu peux avoir fait ton lit en enfer. Il y a une décision de revenir. Peut-être que tu te sens loin. Mais ça ne change rien. Parce que Jésus, il a payé pour toi. Sa mort était même une provision pour tes futurs égarements. Mais il t'a déjà rendu saint, c'est-à-dire consacré à lui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas consacré à lui présentement que tu ne pourrais pas l'être. C'est la même affaire avec ton mariage ou n'importe quelle relation dans ce monde. Pratique tes premières œuvres. Reviens. Simplement. Comment est-ce qu'un couple va ranimer la flamme? C'est en plaçant l'autre en priorité. Comment est-ce qu'un homme ou une femme va ranimer sa flamme avec Jésus-Christ, son Sauveur? C'est en pratiquant ses premières œuvres. L'amour est manifesté en action. Elle est stimulée par des actions. Je veux dire, tu ne ressens rien pour l'être aimé, commence à faire des actions bonnes envers elle. Commence à faire plaisir à l'autre, ranime la flamme en pratiquant tes premières œuvres. Jean nous dit de ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. Et donc, on est appelé par Jésus-Christ à développer notre relation avec lui Et ce que Jésus-Christ attend, c'est des gens qui sont dans un amour inaltérable de sa personne. Comme une épouse qui se prépare pour la noce, qui se met belle, quand l'épouse le voit dans l'allée, elle se réjouit. Et Paul dit, « Garde, je travaille de toutes mes forces. Je fais le ministère de toutes mes forces pour un but. » Qu'avec les instructions, l'enseignement, l'exhortation, vous ayez hâte de voir Jésus-Christ face à face. Que vous soyez en plus irréprochable, que vous ayez veillé à avoir une robe sans tache. Rien qui pourrait même vous amener en justice. Rien. Pour être propre quand Christ arriverait là. C'est ça que Jésus-Christ veut faire. Et c'est ce que ce passage veut dire. Ah, ce passage ne dit pas si tu ne seras pas saint, tu ne seras pas présenté à Dieu saint, hein? Tu ne seras pas présenté saint, ni irrépréhensible, ni sans reproche au grand trône blanc. Si tu n'as pas demeuré fondé et inébranlable dans la foi, et que tu ne t'es pas détourné de l'espérance de l'Évangile que tu as reçu ou entendu. Mais le passage veut vraiment dire ceci, c'est qu'on est quand même encore une fois, prochain clic, responsable. On est rendu à la fin. Hein? On va y arriver. On n'est pas dépouillé de notre responsabilité en tant que personne sainte de devenir saint, comme Dieu est saint. Comme une personne mariée n'est pas dépouillée de sa responsabilité d'aimer, de respecter les vœux qu'elle a faits au jour de son mariage. Amen. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui lorsqu'elle est creusée, étudiée, l'homme peut trouver sécurité en toi. On a entendu, Seigneur, ce matin, un message qui, loin de nous menacer d'être jugés loin de toi, dans le feu éternel au grand trône blanc, celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, ça a été réglé pour lui, ce jugement-là. On a vu dans mon message, Seigneur, que tu ne nous as pas enlevé notre responsabilité, celle de marcher avec toi, celle de t'obéir lorsque la Bible dit quelque chose, de tenter de l'obéir. Tu n'es pas venu nous enlever notre responsabilité et donc tu n'es pas venu enlever les reproches possibles que tu pourrais nous faire lorsqu'on va passer devant toi. Comme dans les mariages, Seigneur Dieu, notre relation avec toi a perd de son feu, a perd de son intensité. Il y a peut-être même des gens qui nous écoutent sur Internet qui sont à l'autre bout de la terre, que tu es dans la francophonie, puis tu entends ce message, puis tu dis, je me sens tellement loin. Je me sens tellement loin, je sens tellement que je me suis éloigné. Eh bien, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as une décision de marcher vers lui. Peu importe loin comment tu es de lui, tu as une décision de te consacrer à nouveau et de répondre à la consécration qu'il t'a déjà donnée. Alors, peut-être que vous écoutez ce message-là, puis vous avez vu les deux jugements, puis vous ne savez pas trop dans lequel que vous vous trouvez, dans le grand trône blanc ou bien non, dans le tribunal de Christ. Vous ne savez pas si vous avez fait la paix avec Dieu par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Bien, aujourd'hui, c'est une invitation. Vous n'avez pas à vous faire paraître devant lui correct. Vous pouvez venir avec vos bébites. Vous pouvez venir avec même, j'ai même pas le goût de l'accepter. Bien, ça l'est, ça, l'ennemi de Dieu en nous, qui n'a pas le goût de vivre pour son Créateur. Tu as juste à le reconnaître, puis de reconnaître que tu es un pécheur et un ennemi de Dieu à cause de ça, puis d'accepter ce qu'il a fait à la croix pour toi. J'aimerais inviter chaque personne à se courber la tête, à fermer les yeux. Et il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute sur enregistrement ou qui est ici aujourd'hui, qui a besoin de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et tu veux répéter cette prière pour accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. On va faire la prière. On la fait souvent en geste de courtoisie. Les autres vont la faire avec toi. Mais c'est une prière qu'on fait une fois, parce que Dieu n'est pas sourd. Puis, si tu crois ce que tu dis, la Bible dit que tu vas avoir la vie éternelle. Alors, répète cette prière-là avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai entendu que Jésus, tu es venu sur la terre comme un homme. Tu es mort sur la croix comme un criminel. Tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Tu as pris mon péché sur toi. Merci d'avoir fait cela. Donne-moi la vie éternelle. Amen. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là pour la première fois, qui a compris la croix pour la première fois, je te prie, Seigneur, que tu puisses montrer à cette personne qui t'a accepté qu'elle a fait la paix avec toi, qu'elle a une nouvelle relation qui est merveilleuse, qui vient de commencer, puis qu'elle a besoin maintenant de marcher avec toi, de te connaître, d'écouter tes instructions, d'étudier la Bible afin d'attendre ton retour, puis que dans son cœur, elle a hâte d'aller dans l'allée pour que son époux puisse voir qu'elle s'est préparée pour sa rencontre. Je prie pour le reste d'entre nous, Seigneur. Peut-être que vous êtes ici ce matin, puis vous dites, Jean-Sébastien, quand tu as pleuré, ça m'a ému, mais... Peut-être que vous pleuriez parce que vous pensiez à quelqu'un qui était loin de Dieu. Quelqu'un qui a préféré sa vie, ne voulait pas avoir de Dieu qui régnait sur lui. Mais peut-être que vous avez dit, Jean-Sébastien, c'est de moi que tu parlais. Je veux me rapprocher, mais je ne sais pas comment. Je suis souvent distrait par les choses du monde. On dirait que j'ai perdu mon focus. Je fais quoi à partir de là? Tu fais juste te tourner de bord. Tu te rappelles le premier jour, quand tu as connu qu'est-ce que Christ avait fait pour toi, puis tu marches dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu as fait la semaine d'après? As-tu voulu aller voir si c'était vrai ce qu'on t'avait dit? Bien, retourne là, dans l'Écriture. Seigneur, je te prie pour ces gens que tu attires à toi, Seigneur Dieu. Ce matin, chaque personne, tu nous attires à toi. Mais Seigneur, je te prie que tu trouves en nous une épouse qui se pare et se prépare pour son sauveur. Trouve une église persévérante. Trouve une église qui est sur la pointe des pieds, comme s'il disait « ce monde va être détruit par le feu ». J'attends mon Père qui vient me chercher. Le manteau sur le dos, les valises sur l'épaule, pas tout à fait bien dans ce monde, Seigneur. Pas tout à fait bien dans ce monde sans toi, Seigneur. Tu veux-tu aussi trouver, Seigneur, dans cette église, une église qui non seulement se tient sous la pointe des pieds, mais a aussi un bâton, Seigneur Dieu, pour qu'une fois montée dans l'hélicoptère, puisse en tirer quelques-uns encore. Des gens qui ne sont pas tellement absorbés par leur vie, qui oublient qu'on est ici pour racheter des hommes, amener des hommes à Dieu par ton rachat à la croix. Est-ce que tu vas trouver une église, Seigneur, quand tu vas revenir, qui cherche à amener l'Évangile à son prochain? Est-ce que tu vas trouver une église qui cherche juste à finir le mois, qui cherche juste à survivre, ou tu vas trouver une église qui prend plaisir en son Dieu? Et qui cherche à faire connaître son Dieu. Père, tant que je serai pasteur ici, Seigneur, je vais garder en éveil notre Église par l'aide des anciens et le Saint-Esprit de qui a été confiée cette Église. De garder cette Église en éveil par des saints avertissements. Merci encore pour... cette opportunité qu'on a eue d'ouvrir ta Bible ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.